débat éco 7h46 avec Thomas Piketty, aujourd'hui en distanciel à Oslo en Norvège. Bonjour Thomas, nous recevez-vous 5/5.
Bonjour, ah bah oui. C'est très bien.
Ah, c'est très bien. Et Dominique Seux en présentiel, il joue à domicile ici dans le studio du 7-9. Bonjour Dominique.
Bonjour Nicolas.
C'est acrobatique comme dispositif technique, mais nous ferons tout pour que la distance n'altère pas la qualité légendaire de vos échanges. L'événement de ce week-end, c'est naturellement l'élection en Allemagne qui va mettre fin aux 16 années de pouvoir d'Angela Merkel. On en parlait hier dans le grand entretien. Le suspense reste entier sur la coalition qui pourrait diriger l'Allemagne. Et on va voir ce matin avec vous, messieurs, quels enjeux économiques se profilent. D'abord, en quelques mots, Dominique, que retenez-vous de la Merkel économique ?
Alors, d'abord, ce que je retiens, c'est la personnalité stupéfiante à nos yeux d'adepte de la 5e, adepte ou pas, mais vivant sous la 5e République, la personnalité stupéfiante, une anti-héros incroyable qui a inventé la non-communication pour rester populaire à un point stupéfiant. Sur le plan économique, évidemment, elle a servi les intérêts de son pays, on peut pas complètement le reprocher. Elle a été moins ambitieuse et avec moins de succès sur les intérêts de l'Europe, on pourrait discuter là-dessus, mais la situation de l'économie allemande est très impressionnante et son avance relative s'est avancée assez nettement depuis 2005-2006 puisque nous avons un PIB, un produit intérieur brut de l'Allemagne qui est aujourd'hui supérieur de 40% à celui de la France. Et si on tient compte de la démographie, c'est-à-dire le produit intérieur brut par habitant, il est supérieur de 20%. Et quand on regarde, évidemment, les succès de l'automobile, ça a continué pendant toutes ces 16 ans, le succès de BioNTech en alliance avec Pfizer montre que la puissance économique et industrielle et scientifique de l'Allemagne a été là tout le temps. Alors après, on peut longuement discuter de quelle a été sa responsabilité réelle, parce qu'on sait bien qu'elle a pris assez peu de décisions. On parle du nucléaire, on parle des réfugiés. C'est la vision qu'on a traditionnellement. Moi, je rajouterais juste un point quand même qui est, elle a eu un rôle assez important pour la participation des femmes au marché du travail. On a dans l'idée depuis 40 ans que le système est assez, machiste, désormais, l'Allemagne est dans le trio de tête pour la participation des femmes au marché du travail. On va parler longuement de la situation vis-à-vis de l'Europe. C'est vrai que sur l'Europe, elle a subi les événements plus que ça et c'est un défaut. Mais on va en parler.
Thomas Piketty, et vous, que retenez-vous sur le plan économique des 16 années de Merkel comme chancelière?
Alors, d'abord, je pense qu'elle restera surtout dans l'histoire pour le fait qu'en 2015, elle a été la seule dirigeante européenne à ouvrir, en tout cas, à ne pas complètement fermer ses frontières aux réfugiés syriens. Sur le plan économique, je pense qu'elle a surtout bénéficié de la géographie industrielle, du modèle industriel allemand qui était en place quand elle est arrivée au pouvoir, et surtout ce qui s'est passé. Vous savez, elle est arrivée au pouvoir en 2005, mais l'événement majeur qui se passe autour de ces années-là, c'est évidemment l'entrée dans l'Union européenne en 2004 de la Pologne, de la Hongrie, puis en 2007 de la Bulgarie, de la Roumanie, et l'Allemagne, l'appareil industriel allemand va extraordinairement bénéficier de ça, c'est-à-dire qu'il va implanter des filiales dans des pays qui à la fois sont à un niveau d'éducation élevé mais ont un appareil économique complètement déclassé par le communisme, et ça va créer des synergies qui sont positives d'ailleurs en soi, potentiellement aussi bien pour l'Allemagne que pour les pays en question. Alors sauf que les salaires ont beaucoup stagné en Pologne et en République tchèque, donc après on peut en discuter sur comment ont été partagés les gains de cette intégration, mais en soi c'est quelque chose de positif, mais qui n'a pas grand chose à voir avec Angela Merkel, ni d'ailleurs avec on a beaucoup dit, oui, c'est les politiques de Gerhard Schröder, les mini-jobs, etc. Sauf qu'en fait, dans les secteurs exportateurs allemands, vous savez, vous avez personne au salaire minimum. Ce sont au contraire des salariés bien payés, et c'est ça qui fait la force aussi du modèle industriel et social allemand, un système de formation, une implication des salariés. Donc, tout ça ne doit pas grand-chose à Angela Merkel, et je veux pas du tout être désagréable avec la moutille en disant ça. C'est juste objectivement, si on regarde l'évolution dans le long terme, je pense que c'est vraiment l'extension à l'Est qui a permis cette prospérité industrielle allemande. Et l'euro qui a beaucoup bénéficié.
l'expansion Dominique. À l'Est, mais aussi l'explosion, enfin la montée en puissance de la Chine. Et effectivement, les Allemands ont été là pour alimenter en machines-outils les Chinois.
On l'entendait hier dans le 7-9, la campagne a été une compétition de personnalité. Et celui qui fait la course en tête dans les sondages, Olaf Scholz du SPD, s'est ingénié, nous disait Daniel Cohn-Bendit hier, à ne surtout faire aucune proposition sur aucun sujet. Mais au-delà de l'élection, Dominique, quels vous semblent être les enjeux économiques, les différents scénarios pour le successeur de Merkel?
Bon, si on écoute Thomas, Olaf Scholz ressemble à Angela Merkel. Aucune proposition sur aucun sujet et ça peut durer avec succès.
C'est Dominique.
Non, mais je le dis presque en plaisantant. Les différents scénarios, alors sur le plan politique, il y aura trois partis, donc c'est une coalition qui va être assez large. Il y a manifestement deux scénarios. Alors, je vais emprunter la formule à mon confrère de l'Opinion ce matin. Si c'est Scholz, c'est-à-dire les sociaux-démocrates, on aura la dépense mais pas la défense. Et si c'est Laschet, les chrétiens-démocrates, on aura l'inverse, la défense et pas la dépense. Je m'explique. Sur les sociaux-démocrates, dit seront plus ouverts, mais pas tant que ça, sur les questions de finances publiques. Ils le seront un peu, mais attendez, un ministre allemand des Finances, il est allemand avant d'être social-démocrate. Mmh. Il est allemand et ministre des Finances. Et donc, il y aura un peu plus de conciliation vis-à-vis des pays du Sud, parmi lesquels on peut mettre la France, sur les questions de finances publiques. Si ce sont les chrétiens-démocrates, ils seront un peu plus fermés, surtout s'il y avait les libéraux dans la coalition et si les libéraux obtenaient le poste de ministre des Finances, comme ils le revendiquent au cas où. Mais sur les questions de défense européenne, ils sembleraient plus ouverts.
Et vous, Thomas Piketty, qu'est-ce que vous attendez, redoutez, espérez? Je ne sais pas quel verbe vous allez choisir pour l'avenir proche.
Ça dépend quand même beaucoup des résultats exacts qu'on va avoir. C'est-à-dire que la coalition, pour l'instant, est très ouverte. C'est-à-dire que suivant si le SPD arrive en tête, ce qui déjà, et ça reste quand même très serré entre le SPD et la CDU, mais si le SPD arrive en tête, fait une coalition avec les Verts, la vraie question, ce sera est-ce qu'ensuite, ils font une coalition avec Die Linke pour composer la coalition, donc le parti de gauche, ou avec les libéraux, ou avec la CDU. Et ça peut donner des résultats très différents. Potentiellement, le SPD et Die Linke et les Verts sont porteurs d'une stratégie, disons, d'investissement beaucoup plus forte en Allemagne, dans les infrastructures, dans la formation. Bon, il y a la question, par exemple, le SPD, effectivement, n'est pas révolutionnaire, mais il y a quand même des différences avec la CDU. C'est-à-dire, sur le salaire minimum, ils proposent de monter le salaire minimum de 9 euros à 12 euros. De façon générale, toute la politique des mini-jobs dont je parlais tout à l'heure, qui a quand même creusé les inégalités par le bas en Allemagne, ce qu'on a un peu oublié du fait des succès industriels du pays, mais ça, c'est quelque chose auquel le SPD veut s'attaquer. Le SPD veut réintroduire l'impôt sur la fortune en Allemagne, ce qui n'était pas du tout le cas avec Sigmar Gabriel lors des élections précédentes. Donc il y a des évolutions qui
Et il y a donc des alternatives. Il y a donc des alternatives, c'est ça.
Oui, il y a des alternatives qui vont surtout dépendre de la coalition, plus encore que du nom du chancelier. C'est-à-dire que c'est vrai que suivant si la coalition se fait, disons, plutôt vers la gauche ou en rassemblant tout le monde, on peut avoir des conséquences très différentes au niveau européen.
Dominique Seux.
Oui, je voulais dire un mot juste sur le fameux taux de pauvreté et les mini-jobs. C'est vrai qu'on dit beaucoup, et on le dit un peu moins ces toutes dernières années, mais on l'a beaucoup dit il y a 5-10 ans, les réformes du marché du travail ont entraîner une explosion des mini-jobs et donc au fond de la précarité en Allemagne. Ça n'est pas faux, mais il faut regarder quand même de plus près. C'est vrai que leur taux de pauvreté est d'un point supérieur à celui de la France. On est à 13,5 en France, 14,5 en Allemagne. Mais vous savez, l'indicateur de pauvreté, c'est un indicateur surtout d'inégalité ou disparité des revenus. Eurostat regarde le taux de pauvreté réel, c'est-à-dire les situations de privation de biens matériels. Et attention, le taux est deux fois plus élevé en France qu'en Allemagne. Donc, vous ne pouvez pas payer de loyer, vous ne pouvez pas partir en vacances, vous avez du mal à manger de la viande une fois par semaine, etc. Attention à la vision qu'on peut avoir de l'Allemagne vue de la France, c'est moitié moindre en Allemagne qu'en France.
Je voudrais qu'on avance sur la question de la transition écologique. On se souvient que Merkel avait annoncé la fin du nucléaire en Allemagne après la catastrophe catastrophe de Fukushima. Cet été, des inondations dramatiques ont reposé donc la question du changement climatique. Quels sont, Thomas Piketty, selon vous, les scénarios allemands de transition écologique?
Bah, là, la grande nouveauté, c'est que dans tous les cas de figure, il y a de fortes chances que les Verts soient dans la coalition au pouvoir au niveau fédéral, ce qui ça ne s'est jamais fait. En tout cas, il y a eu rapidement à l'époque Schröder, mais les Verts étaient dans une position potentiellement beaucoup moins forte qu'aujourd'hui. Et là, la situation aujourd'hui, l'urgence climatique est différente. Et là, c'est vrai qu'il va y avoir à nouveau au moment de la formation de la coalition un bras de fer, c'est-à-dire que la question, c'est à quelle date on abandonne le charbon, le gaz, à quelle vitesse on augmente les énergies alternatives, les investissements dans l'éolien. Donc, par exemple, les Verts insistent sur le fait qu'il y ait 2% du territoire de chaque Länder qui soit couvert d'éoliennes et non pas 0,9% actuellement. Voilà, ce sont des discussions qui vont avoir lieu, et toute la question des investissements en général dans les énergies renouvelables, mais dans les infrastructures plus généralement, sur lequel on peut quand même attendre un infléchissement assez important après ces élections.
Dominique Seux.
Mais avec le recul, quand on regarde la situation climatique et les émissions de CO2 en Allemagne, la décision de 2011 a été aujourd'hui une catastrophe. C'est-à-dire que l'Allemagne émet infiniment plus de CO2 que la France, quand on regarde le bilan global.
Plus, c'est un peu beaucoup.
De l'ordre de deux fois, je crois, quelque chose comme ça.
Vous pourrez peut-être vous retrouver sur beaucoup plus.
C'est pas le cas.
On est d'accord sur beaucoup plus. Après, s'il y a les Verts, effectivement, il y aura un gros changement vis-à-vis du charbon, puisque le programme de la coalition actuellement au pouvoir, de tête, c'est l'arrêt du charbon en 2038. Les Verts disent on peut avancer à 2030. Ça changerait beaucoup la donne. Et effectivement, vu de France, c'est quelque chose qu'on peut souhaiter. Ce qui est intéressant, c'est que évidemment, les prochains mandats en Allemagne comme en France devront être des mandats marqués par la lutte pour la décarbonation. C'est vraiment, pour avoir les résultats en 2030 nécessaires, c'est maintenant que ça se passe. L'Allemagne arrive avec des munitions, notamment le secteur automobile. Il faut savoir que le secteur automobile a des réserves fantastiques pour organiser cette transition vers les véhicules électriques que n'ont pas les industriels français. Pourquoi ? Parce que ils produisent des véhicules thermiques dans le monde entier, les Allemands, qui leur donnent de la marge, et cette marge va leur permettre de financer la production de véhicules électriques en Allemagne et pour l'Europe. Et donc, on va avoir les Allemands qui vont être très en avance là-dessus.
Plus que 2 minutes, messieurs, juste pour vous poser une question. La France forme un couple avec l'Allemagne. L'élection allemande aura-t-elle un impact sur nous ici, sur la France, Thomas Piketty?
Bah, pour moi, le vrai enjeu de ces élections et aussi des élections suivantes en France, c'est est-ce qu'on est capable de constituer un noyau dur d'un plus petit nombre de pays en Europe, la France, l'Allemagne et on espère l'Italie, l'Espagne, la Belgique, qui peuvent prendre des décisions ensemble, de façon à la règle de la majorité, beaucoup plus forte. Sur le climat, par exemple, on en parlait à l'instant, est-ce qu'on va faire une taxe carbone aux frontières vraiment ambitieuse? Avec la règle de l'unanimité actuellement, avec 27 pays, on n'y arrive pas. Il y a beaucoup de sujets comme ça sur comment trouver notre place dans l'économie mondiale, sur lesquels on a besoin de constituer un noyau dur qui prend des décisions. On n'est pas du tout en France dans la situation que décrivait Dominique à l'instant sur les émissions carbone, qui est aussi rose que ce qui était évoqué. En fait, si on prend en compte le contenu dans les importations, on est à 9 tonnes par habitant et non pas les 6 tonnes si on oublie les importations et exportations. Donc Dominique, faut pas... Vous savez, l'Allemagne n'a pas toujours fait les bons choix, mais la France est très très loin du compte aussi et on a besoin ensemble d'aller beaucoup plus loin, notamment sur la taxe carbone aux frontières.
Impact de l'élection sur la France, Dominique, vous avez la conclusion.
Oui, aujourd'hui l'Allemagne, c'est un peu le N+1 de chaque pays en Europe.
Et le supérieur hiérarchique.
Le supérieur, parce que aucune décision ne se prend qu'en Allemagne, sans l'Allemagne. Là, le vrai défi pour l'Allemagne et le prochain ou la prochaine chancelière, c'est de dire, au fond, est-ce qu'elle va sortir de sa neutralité? La neutralité sur à peu près tous les sujets. L'Allemagne essaye d'être amie, on peut le comprendre, mais elle fait pas de choix. C'est-à-dire, elle est amie de la Chine, elle est amie des États-Unis, elle est amie de la Russie. Il va falloir s'engager plus sur les questions européennes et dire, notre priorité vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis des États-Unis, c'est l'Europe, et c'est ce choix-là qui n'a pas été fait par Angela Merkel, il a été fait par défaut, elle a subi plus qu'était leader, et c'est ça l'enjeu, à mon avis, du prochain mandat.
Dominique Seux, Thomas Piketty, merci, le journal à suivre. France Inter.